La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Surveillance ou spectacle ? Quel terme, quel concept décrit le mieux la situation dans laquelle se trouvent désormais nos sociétés numériques ? C'est la question que se pose et à laquelle répond par une analyse brillante et nourrie aussi d'une impressionnante collection de faits tout plus saisissants les uns que les autres, le juriste critique Bernard Harcourt, professeur à Columbia et directeur d'études à l'école d'études en sciences sociales, il est aujourd'hui l'invité de la suite dans les idées. Bernard Harcourt, bonjour. Bonjour. Je le disais, vous êtes un juriste critique, c'est-à-dire que vous êtes à la fois professeur de droit, mais vous êtes directeur d'un département d'études critiques à Columbia.
C'est ça.
Vous avez fait des études de droit, vous avez aussi pratiqué, vous continuez de pratiquer le droit dans un parcours très américain auquel on est peut-être moins habitué en France, c'est-à-dire que il vous arrive de plaider comme avocat.
Oui. Pour les condamnés de la mort seulement. Hein,
voilà.
Dire, donc pas avocat général, mais ouais, très précisément sur les cas de la mort.
Notamment dans le sud des États-Unis.
C'est ça, en Alabama.
En Alabama. Donc vous avez cette pratique juridique, vous avez une pratique de l'enseignement, donc puisque vous enseignez à Columbia University, puis depuis 2 ans maintenant, vous êtes aussi directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Et je vous ai invité parce que je voulais qu'on parle d'un livre qui n'est pas traduit en français, qui s'appelle Exposed, qui a paru à Harvard University Press, et qui vous permet au fond d'utiliser des analyses que vous avez menées dans le sillage d'une certaine façon de Michel Foucault autour des questions de surveillance. Je dis au passage que vous êtes l'éditeur du dernier cours publié de Michel Foucault dans cette collection aux études Gallimard Le Seuil. Dernier cours publié, mais qui était le deuxième en fait prononcé par Michel Foucault, 1971, dont on dira un mot. Donc vous avez travaillé beaucoup sur ces questions de surveillance, mais vous êtes aussi contemporain d'une situation dans laquelle nous nous trouvons tous, qui est une situation de changement rapide de nos vies, bousculée par le numérique. Et les conséquences de cette révolution, de cette mutation technologique sont considérables pour les sociétés, pour l'économie, pour la politique, pour les libertés publiques, bien évidemment. C'est toutes ces questions que vous abordez dans cet essai que vous avez choisi d'intituler « Exposed ».
Oui, exactement, « Exposed ». Ou bien je l'aurais intitulé, vraiment, c'est « La société d'exposition ». Voilà, c'est ça l'idée. Et la notion d'exposition, qu'on s'expose. On n'est pas seulement exposé, mais on s'expose. C'est ça qui m'intéresse le plus. Alors donc, vous avez bien encadré, parce que c'est vraiment... La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que c'est une société de spectacle, comme Debord avait suggéré? Est-ce que nous sommes vraiment dans un spectacle, devant le spectacle, faisant partie d'un spectacle? Ou bien est-ce que nous sommes surveillés plutôt, comme Foucault avait proposé, donc dans la société dite punitive ou panoptique, et dans un certain sens. Bien sûr, il y a beaucoup de spectacles, bien sûr, il y a énormément de surveillance, mais ce qui est entièrement différent aujourd'hui, et c'est ça, le pouvoir circule d'une manière entièrement différente aujourd'hui, c'est que nous exposons volontairement, ou bien avec toute notre passion sur Facebook, Twitter, Instagram, etc., en achetant en ligne avec Amazon, en regardant des films en ligne avec Netflix, en venant ici au studio, en utilisant l'appli,
des billets pour voyager,
ouais, exactement. Et ça, on s'expose d'une manière avec du désir que vraiment c'était pas cette situation du tout dans la cellule panoptique, quoi. On était dans la cellule panoptique et dans la discipline, on était forcé d'être discipliné, d'être surveillé, etc. Ici, on se met sur l'écran. On se met sur l'écran partout, mais les jeunes, en particulier, parce que il y a moins de crainte, je crois, mais même ceux qui hésitent et ceux qui sont un peu résistants, ils finissent par se mettre parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. On peut pas se communiquer sans, on peut pas vivre sans un mobile.
On s'y met pas toujours pour des raisons narcissiques. D'ailleurs, on s'y met aussi pour des raisons parfois citoyennes. C'est-à-dire que ces réseaux peuvent à l'occasion permettre des mobilisations politiques.
Formidable, exactement. Je veux dire, c'est le moyen de communiquer, c'est le moyen d'avoir des réseaux, c'est le moyen d'organiser. Je veux dire, il n'y aurait pas pu y avoir Occupy Wall Street aux États-Unis sans ces réseaux, etc.
Donc, on peut dire la même chose de Nuit Debout
exactement,
en France.
Exactement. Ça ne peut pas marcher seulement à ce que j'appelle à l'analogue. Et donc, ça change vraiment la manière dont ensuite on est pris dans ces réseaux et dans ces mailles. Ces mailles, je les appelle, c'est des mailles d'acier, mais en fait, c'est du virtuel. Et c'est ça qui est tellement intéressant. Mais je crois que, donc, quand on pense au spectacle, quand on pense à la discipline ou au panoptique, ou quand on pense, par exemple, au fait que beaucoup de gens disent que c'est un peu orwellien aujourd'hui, précisément, c'est Orwell, il était brillant. Il a vu tellement de choses incroyables, 49, qu'il écrive ça en 1949, c'est absolument foudroyant. Mais c'était la dynamique politique dans 1984 était complètement l'opposé de ce qu'elle est aujourd'hui. Dans les stratégies dans le livre 1984, c'était d'écraser le désir. Hein. Anti-sex leagues, hate weeks, hate songs. C'était vraiment les pamphlets of atrocity. C'était vraiment d'écraser tout le désir. Aujourd'hui, au contraire, c'est d'avoir plus de likes, d'avoir plus de gens qui vous aiment, de gens qui vous suivent.
C'est une exacerbation du désir, au fond.
C'est exactement ça, oui, c'est exactement ça. C'est une séduction, parce que... Et ça, c'est la question qui est peut-être la plus paradoxale ou bien la plus incompréhensible, d'une certaine manière, c'est que toutes ces nouvelles technologies qui arrivent à nous suivre, et bien sûr, une fois que, comme Edward Snowden nous a bien montré, une fois que c'est accessible vraiment... en libre, hein, accessible en libre au service de renseignement américain, français, anglais, etc. Une fois que c'est accessible, bien sûr, on peut être suivi, traqué, profilé, etc. Mais toute cette technologie qui nous séduit, que ce soit Instagram ou de passer son temps à regarder des films en ligne ou de jouer des jeux vidéo, toute cette technologie, c'est la même technologie qui crée la surveillance, qui rend possible la surveillance. Et c'est ça qui est tellement problématique, je pense, tellement problématique aujourd'hui.
On voit bien l'enjeu théorique critique qu'il y a là, c'est-à-dire que à la fois des livres qui ont été écrits et publiés à une époque où tout cela n'avait pas la moindre existence. Vous parliez de Orwell, mais on parlait aussi de Michel Foucault, de Surveiller et punir. Ouais, on peut parler de beaucoup de travaux sur le contrôle politique, ouais. Par exemple. Évidemment, ces livres ne sont pas périmés. Ils nous aident encore à penser. Mais on ne peut pas les appliquer, les translater en quelque sorte de manière simple. Même chose pour les réflexions de Guy Debord sur le spectacle. Ouais. Parce que il y a une transformation si profonde des relations sociales, en fait, sous-jacente à ces questions du pouvoir, à ces questions de la surveillance, à ces questions du spectacle, que cela oblige au fond à refonder théoriquement nos réflexions.
Exactement. Mais c'est Foucault, il avait une bonne, il reconnaissait ce phénomène dans le sens que il n'a jamais pensé que il y a une manière dont le pouvoir se distribue, que ce soit juridique, ancien régime, etc. Ensuite, une nouvelle manière, la discipline, et que c'était mutually exclusive, ou que ça remplaçait. Il avait jamais proposé ça. Et ce qu'il faut qu'on fasse, c'est vraiment qu'on essaye de, bien sûr, prendre les paradigmes, les modèles qui ont été créés dans le passé, parce que, bon, ça, il y en a, ça survit, ça infiltre, ça continue quand même, mais d'essayer de vraiment reprendre le présent pour le comprendre mieux. Sur Orwell, dont vous parliez justement, c'est le telescreen, c'était la technologie dans 1984, c'était cet écran qui était forcé dans le salon de chaque individu, qui regardait tout le monde, on pouvait pas s'en échapper, etc. Ben, aujourd'hui, les gens y mettent dans leur salon des smart TVs, hein, c'est des télévisions intelligentes, qui font exactement la même chose. Ils enregistrent tout, hein. Mais c'est pas forcé. C'est pas l'État qui a forcé ça. C'est pas Oceania. C'est pas Big Brother. C'est nous qu'on l'a mis parce que première, pour se vanter, pour montrer qu'on a un grand plasme, pour
et puis
montrer
parce que ça rend des services.
Exactement. Et puis c'est formidable, on peut voir les nouvelles, on peut faire des trucs, etc. On peut rester assis et parler à la télé pour lui dire donnez-moi la météo. Hein? Donc c'est du pratique, c'est de la séduction, c'est un bel objet. Je veux dire, les iPhones et les iWatches, c'est des objets, c'est de la séduction. Mais quand on met un iWatch sur soi, c'est pas tellement différent que de mettre un bracelet électrique sur un individu. Genre, on peut suivre tous les mouvements, on sait tout. Où elle est, où la personne est, où la personne couche, avec qui la personne couche, on sait tout.
Alors, ce qui est frappant, c'est que, au fond, un certain nombre d'évolutions rejoignent ce que certains auteurs avaient anticipé, qu'il s'agisse d'auteurs de fiction ou de philosophes de la politique. Mais la différence, c'est qu'en général, ces auteurs, même toujours, ces auteurs avaient imaginé qu'un pouvoir centralisé était à l'œuvre et que c'est ce pouvoir qui contraignait, qui forçait les individus. Or, ce qui se passe, c'est que ces technologies sont pratiquement celles qui avaient été imaginées dans l'esprit les plus prévoyants, en quelque sorte visionnaires. Mais elles sont, comme vous le décrivez bien, non pas du tout imposées de l'extérieur, elles sont imposées par une transformation des relations sociales et économiques. Et l'erreur serait d'ailleurs d'appliquer la grille de lecture ancienne sur la nouvelle et donc de raisonner en termes de complot, de voir derrière l'adoption de ces comportements des formes de contraintes organisées par des pouvoirs qui seraient exactement mystérieux. C'est évidemment ouais pas la piste que vous explorez.
Ouais, exactement. Donc on ne fait pas face à ce que beaucoup aux États-Unis disent, ce qui s'appelle the surveillance state, l'État surveillant. Si on utilise ces métaphores ou si on utilise ces vieux modèles, on se trompe. Et c'est ça vraiment
on
l'exercice.
Passe à côté, on
passe
pas
à compter. Mmh. Oui, exactement, exactement. Alors, par exemple, le mois dernier, l'administration Obama a commencé un nouveau centre. Ça s'appelle le Centre de l'engagement global. L'idée, c'est d'essayer de prévenir la radicalisation de jeunes vulnérables à la radicalisation. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont utiliser le modèle Amazon-Google. Donc, il faut bien comprendre que la technologie qui se développe par Amazon et par Netflix, parce que c'est la question de pouvoir prédire à partir de tous les traces numériques que les gens ont laissées.
Des data, comme on dit.
Des data, exactement. De miner les big data, de toutes les data, pour prédire que devient cet individu numérique. Parce que vraiment, il y a un individu, il y a un homo digitalis qui se sépare de notre présence analogue et qui devient des traces qui sont une personne, hein. Mais c'est donc de comprendre, de prédire ces directions en utilisant une nouvelle logique qui a été développée par tous ces algorithmes de prédiction. C'est une nouvelle logique, il faut la comprendre, elle est différente de la logique du XXe siècle. On n'est pas en train de penser aux gens comme faisant partie d'un groupe. C'est pas comme le raisonnement actuariel qu'on connaît des assurances. C'est pas ça du tout. Le raisonnement des relations linéaires ou même les relations du genre statistical regression analysis.
Oui, des analyses de régression statistique.
Exactement,
oui.
C'est plus ça. C'est plutôt d'essayer de trouver les doppelgangers, d'essayer de trouver votre double, hein, votre double numérique. Comme ça, parce que si vous avez trouvé cette personne qui a acheté les mêmes 15 livres que vous, le prochain livre que cette personne va acheter va peut-être vous intéresser.
Vous voyez, double numérique est au fond une espèce de double épistémique aussi pour ces gens-là.
Exactement.
C'est un moyen de connaître et donc de prédire vos comportements à l'avenir.
Oui, exactement. Et c'est une logique très différente, à la fois donc une rationalité très différente, d'essayer de trouver son double, c'est toujours cet effort-là, et de penser à une existence séparée, un corps séparé. C'est vraiment les deux corps, quand on parlait à l'âge médiéval, aujourd'hui, c'est les deux corps, c'est notre analogue qui, franchement, il disparaît de plus en plus, comme une vieille Polaroid, quoi, et notre existence numérique qui est beaucoup plus fiable. Vous savez, je veux dire, je dis ça avec...
Et plus immortel aussi.
Et plus immortel. Mais oui, exactement. Le fait, c'est que ce que je pense, ce que je ressens, je n'arriverai pas à le prouver. Mais par contre, toutes mes traces numériques, oui, on peut prouver où j'étais ce matin, etc. Ce que j'ai acheté, ce que j'ai utilisé, le Navigo, etc. Donc, c'est plus démontrable, c'est presque plus vrai, dans un certain sens. Et donc il y a toute cette nouvelle rationalité. Et puis, comme vous aviez dit avant, c'est... tout un nouveau système de, une déconstruction de cette séparation entre économie et société et de gouverner. Donc, il y a une déconstruction des actes de gouverner, des actes de faire de la marchandise, de faire des échanges et de la société. Ça se confond entièrement maintenant, tel que, et ça marche ensemble.
C'est-à-dire que vous allez jusqu'au fond à pointer que le mouvement qui a été observé par les sciences sociales depuis leur naissance, d'une différenciation progressive des sphères d'activité. Max Weber, évidemment, a été l'un des premiers à montrer comment l'économie, le politique et la société se séparent, se spécialisent. Au fond, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est à un brouillage de ces frontières qui sont pourtant très institutionnalisées et dont il reste encore des traces institutionnelles très fortes, à un brouillage qui est très rapide et qui remet en question beaucoup, non seulement des manières de se mouvoir dans le monde, mais aussi des façons de se le représenter, ce monde.
Exactement. Parce que, par exemple, Apple, maintenant... gouverne, nous gouverne et gouverne les autres.
C'est pas le gouvernement. Apple a du pouvoir politique.
Complètement. Par exemple, et vous savez, j'ai l'exemple dans le livre d'un jeune homme, Josh Begley, qui voulait faire un app pour les iPhones où on pouvait voir tous les drone strikes, tous les attaques de drones des États-Unis. Donc une fois que la minute qu'il y a un drone strike, ça ferait une alerte et puis voilà. Bon. Apple n'en voulait pas. Répondait.
Oui, ils ont trouvé des tas d'arguments pour raconter.
Pas quelque chose que les gens vont être, dont les gens vont être intéressés. Ça ne rentre pas exactement dans la rubrique, etc. Bon, il a fini par faire son app en créant un app avec rien du tout dessus. Et là, ils étaient tout à fait d'accord. Oui, vous pouvez avoir votre app. Et puis ensuite, il a mis l'alerte. Oui. Il a mis le contenu. Mais donc, ça, c'est des formes de Facebook qui fait de la. Écoutez, ils n'ont pas de choix que de faire de la censure parce qu'il y a tellement d'informations. Il faut décider quelles informations vont être livrées aux individus, qu'est-ce qui va être pushed. Hein. Ça n'existe pas la neutralité dans un contexte comme ça. Et du reste, récemment aux États-Unis, il y a tout un grand débat sur le fait que les nouvelles qui sont pushed par Facebook sont trop progressistes, etc. Mais c'est inévitable. Et quand ils décident d'éliminer des sites un peu contestataires en Chine ou quelque chose, on sait très bien ce qui est en train de se passer. C'est que Apple est en train de gouverner vraiment. Et on voit dans les trois sphères, c'est vraiment Apple est en train de gouverner, l'État est en train de faire de la marchandise et faire du commerce, et tout ça, ça se mêle, on le voit le mieux, du reste, ça se mêle dans ce qu'on appelle le data brokers,
les courtiers en deniers,
il y en a plus que 4000, c'est une industrie énorme, plus de 150 milliards de dollars par an, et ils vendent absolument tout. Ils vendent absolument tout. Ils récoltent tout, ils vendent tout, que ce soit lié avec les informations du gouvernement,
la santé,
c'est absolument... Donc c'est ça, c'est des sphères qui se déconstruisent, qui collapsent, Et ce qui est intéressant, c'est que la critique a souvent dépendu du fait que ces sphères devraient être différentes. Ou du moins que la rationalité libérale, démocratique, dépend d'une séparation de ces sphères.
D'une autonomie assez grande entre le juridique, le politique, l'économique, par exemple.
Exactement. Et qu'une fois qu'il n'y a plus même de prétendu que ces sphères soient différentes, ça nous démunit un peu. Comment critiquer cette situation? Comment la comprendre et la critiquer? Comment est-ce qu'on peut quand en fait, on dirait même pas que, disons, l'administration Obama, en ce qui concerne les données et ce qu'on sait de la vie privée, soit vraiment reconnaissent vraiment les risques et ce qui se passe avec la vie privée.
C'est-à-dire qu'on a l'impression, tout à l'heure vous disiez, il y a deux corps du roi, il y a un écart énorme entre l'individu digital et puis l'individu analogue, mais on a l'impression que cet écart existe à l'échelle de la société où il y a ce nouveau modèle de fonctionnement où les frontières classiques sont brouillées. Et puis, il y a le monde politique, économique, les médias analogues qui continuent de faire comme si tout ça n'avait pas vraiment changé. Alors évidemment, les médias, par exemple, nous racontent beaucoup d'histoires, mais elles sont racontées les unes à côté des autres sans qu'on arrive à véritablement, et je pense que c'est ça vraiment le grand intérêt de votre livre, c'est qu'il est nourri de beaucoup de petites histoires qui touchent à cette grande question, mais que vous essayez par la réflexion de les articuler.
Exactement,
oui. Donc on a cette sensation d'être confronté tous les jours à des faits qui nous indique au fond que nos représentations du monde ne sont plus conformes à la réalité de ce monde aujourd'hui sans qu'on puisse véritablement se faire une représentation globale juste.
Oui, et en partie ça a à faire avec, je crois, la séduction de ce monde et de ses objets connectés. Parce que, vous savez, je veux dire, le temps qu'on réalise qu'on a été suivi, le temps qu'on... Quand on voit que, en fait, on a une publicité qui nous a suivis quelque part sur l'internet ou qui nous cible, etc., et ça nous dérange. Le temps qu'on soit un peu inquiet, on est déjà agacé, on est déjà repris par le next ping, le next email. Donc ça crée, donc toute cette nouvelle technologie crée une certaine distraction intellectuelle, une temporalité différente qui fait que on n'arrive presque pas à s'arrêter, réfléchir, essayer de mettre ces objets ensemble et ces nouvelles réalités ensemble pour les comprendre avant qu'on ne soit déjà repris dans le jeu du numérique avec une nouvelle vidéo, avec un tweet, avec quelque chose, avec un nouvel événement qui est diffusé virtuellement partout.
Alors quelle est la meilleure façon au fond d'adopter une position critique par rapport à ça? Est-ce qu'on peut sauver la critique en quelque sorte? Est-ce qu'on peut hériter de cette philosophie critique pour l'adapter au mieux à cette nouvelle situation? C'est évidemment l'effort que vous faites dans ce livre, mais comment vous le faites, et comment vous le faites peut-être sur un terrain particulier qui est celui du droit et qui est directement concerné, que vous connaissez bien, Bernard Harcourt?
Alors écoutez, vous savez, alors la première chose, je crois, qu'il faut faire, et c'est ça vraiment l'effort du livre, c'est d'essayer de comprendre comment le pouvoir circule aujourd'hui. Voilà. En d'autres mots, le discours dominant sur les data et le datafication, et donc la numérisation de tout, le discours dominant, c'est que tout ce big data va nous donner accès à la vérité, des vérités, des nouvelles vérités qu'on n'aurait pas pu voir avant. Hein. Et donc c'est tout le discours sur les search Google qui nous disent par exemple où il y a une épidémie, où il y a un virus, etc. Parce que les gens sont en train de chercher, on utilise le big data. Et donc avant même que l'organisation de santé mondiale peut déterminer qu'il y a quelque chose, on le sait déjà avec tout ce big data.
Crowd knowing.
Exactement. Et ça, c'est, je crois, la manière dominante de penser notre nouvelle ère. C'est les possibilités, ça nous donne accès à la vérité. Alors, il faut commencer par comprendre qu'en fait, c'est pas ça ce que fait ce nouveau monde numérique. C'est plutôt ce nouveau monde numérique, ça distribue le pouvoir d'une manière nouvelle. C'est ça. Et donc, je crois qu'il faut commencer en critique d'essayer de comprendre comment le pouvoir circule aujourd'hui, différent de la discipline ou du panoptique, différent du spectacle, différent même de chez Deleuze, les sociétés de contrôle, parce que on est pris, et c'est notre désir qui participe vraiment, qui pousse, qui motive ce nouveau monde. Donc il faut essayer de comprendre comment le pouvoir circule, quel est ce nouveau modèle, quelles sont les nouvelles rationalités, quels sont les nouveaux réseaux qui se forment. Ok, c'est la première étape. Donc de bouger un peu de ces assertions au sujet de la vérité aux questions du pouvoir qui circule. Et puis, dans un deuxième temps, ensuite, il faut voir la manière dont notre désir étant tellement au centre même de cette circulation au pouvoir, comment on peut imaginer des formes de désobéissance qui comprennent le présent et qui s'ajustent à ces nouvelles formes. Et au rôle du désir aujourd'hui, de cette séduction par le numérique. Il y a beaucoup de différentes stratégies pour résister, ce que j'appelle digital disobedience.
La désobéissance numérique.
Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de différentes stratégies. On les voit tous les jours. On voit des pôles différents, que ce soit Edward Snowden ou Julian Assange qui essayent d'exposer les excès de la surveillance, etc., et de cette exposition. Donc, d'un autre côté, il y a beaucoup de monde qui essaye de se créer un monde numérique plus sûr et une plus grande sécurité autour de ces data et ces données avec des serveurs privés, avec des PIMS, des management, des moyens de gérer ses propres informations. Donc, il y a tout, et bien sûr, il y a beaucoup d'interventions artistiques importantes qui nous posent des questions. Je pense que du point de vue critique, le grand problème qui se pose et auquel on doit vraiment s'acharner, c'est que la désobéissance, souvent, ça vient du désir et non pas du devoir. Mais malheureusement, c'est vraiment le désir aujourd'hui qui nous a mis dans ces mèches.
Merci beaucoup, Bernard Harcourt. On trouve la référence de votre livre, donc pour l'instant en anglais, Exposed, publié à Harvard University Press, sur la page de l'émission La Suite dans les Idées, une page sur laquelle vous pouvez également réécouter l'émission et vous abonner au podcast. C'était La Suite dans les Idées, Sylvain Bourmeau, attaché d'émission Cyril Baer, à la technique aujourd'hui Valérie Lavalard, à la réalisation Jean-Christophe Francis. Et dans quelques instants sur l'antenne de France Culture, vous retrouvez la conversation scientifique d'Étienne Klein.